Vous êtes bien sur Graffiti. Aujourd'hui, gros plan sur l'association Ciel, S-I-E-L, dont la mission est de transcrire en langue des signes certains événements de la programmation du festival, comme la diffusion du film Chao d'Andrea Arnold et des clips de Régis Roinsart.
Bonjour à vous deux, Elisa Rastarazou et Véronique Savary. Véronique Savary, vous êtes membre de l'association Ciel, signifiant service interprète en langue des signes. Est-ce que vous pourriez nous décrire quelles sont vos missions au sein de cette association ?
Ma mission principale, c'est l'interprétation en langue des signes et en français de communication qui peut être dans tous les domaines.
Et comment s'est mis en place le partenariat entre l'association et le Festival international du film de La Roche-sur-Yon ?
Là, c'est plus une question que je vais donner à Elisa, parce que c'est plus celle qui a été au départ du projet.
Donc, en fait, c'est le festival qui nous a sollicités. Moi, j'avais déjà eu l'occasion de traduire au Concorde, au cinéma, bénévolement pour des séances organisées par une association. Donc, j'avais déjà eu l'occasion de me faire connaître dans le cadre du bénévolat. Et puis après, quand ils nous ont repérés, ils nous ont contactés pour rendre accessible en langue des signes des rencontres qui sont organisées dans le cadre du festival avec soit des comédiens, soit des réalisateurs ou réalisatrices, etc.
Donc j'avais vu que vous étiez sur votre Facebook, il y a marqué que vous êtes interprète indépendante. Comment est venue cette idée de travailler en association avec Ciel ?
En fait, l'association Ciel, c'est le statut, c'est la structure pour laquelle travaille Véronique en tant qu'interprète. Mais on est toutes les deux indépendantes, en fait. Moi, j'ai le statut d'indépendante parce que j'ai un autre statut juridique. J'ai une micro-entreprise, en fait. Mais concrètement, dans les faits, ça change pas grand-chose parce que on travaille très souvent ensemble, en binôme, pour des interventions, des prestations. Et on est deux interprètes sur tout le département de la Vendée, en langue des signes, je précise. Et du coup, en fait, on est amené très, très souvent à collaborer. On est tout le temps dans un échange, en fait, même si on est chacune dans notre statut juridique indépendant, en fait, on est collègues, enfin, on est consoeurs, on travaille vraiment en collaboration, quoi, tout le temps, quoi.
Et j'ajoute que nous sommes que deux interprètes en Vendée, ce qui fait que c'est aussi pour ça qu'on travaille vraiment en binôme très souvent.
Pourquoi avoir appris la langue des signes et comment vous est venue cette idée ?
Alors moi, j'ai vu des émissions à la télé quand j'étais petite, tout simplement. Il y avait à l'époque Récréa 2, pour les enfants, et ça ne nous rajeunit pas. Et donc, il y avait une émission qui s'appelait « Les mains ont la parole », qui était Marie-Thérèse Abou, qui était une personne sourde, qui racontait un conte en langue des signes. Et donc, il y avait une soirée où il y avait le conte avec une voix off, et le lendemain, il y avait le même conte en langue des signes sans la voix off. Si bien que les enfants, ça les habituait à comprendre et à mémoriser les signes. Et puis en grandissant, je m'étais toujours dit que j'apprendrais la langue. Et après, je me suis dit, pourquoi pas en faire un métier.
Et pour ma part, ça a toujours été une curiosité. Pareil, depuis que je suis petite, adolescente, à chaque fois que je voyais des personnes sourdes dans la rue, ça attirait mon attention. Et puis après, en grandissant, quand il a fallu choisir une orientation, je m'étais à l'époque, après mon bac, inscrite en cours de sociaux. Donc j'étais en fac de sociaux et il y avait des étudiants sourds dans ma promo. Et donc il y avait des interprètes qui venaient traduire les cours de sociaux. Et ça me fascinait complètement. Au lieu d'écouter les cours, je regardais l'interprète et j'essayais de comprendre les signes. Et puis voilà, petit à petit, ça m'a de plus en plus intéressée. Et quand il a fallu vraiment choisir un métier, j'ai laissé la socio et je me suis intéressée au métier d'interprète en langue des signes. Et plus je me suis intéressée, plus ça m'a passionnée, plus j'y ai pris goût. Voilà.
En anglais, il existe la Signed Exact English et la British Sign Language. Est-ce que vous maîtrisez une langue des signes étrangère ? Parce qu'on sait qu'il existe une langue des signes pour chaque pays, presque.
Alors non, moi je ne maîtrise pas du tout. Je traduis vraiment que vers le français et la langue des signes française. Il existe effectivement une langue des signes pour chaque pays. Et après, quand on a vraiment besoin d'un relais, on fait souvent appel plutôt à une personne sourde, qui sont, elles, plus amènes de pouvoir traduire vers... ce sont des interprètes sourds. Voilà.
Et juste préciser par rapport à votre question, vous parlez de la langue des signes américaine, qu'on appelle ASL, American Sign Language, et la British Sign Language, qui est la langue des signes britannique ou anglaise. Et effectivement, comme dit ma collègue, il y a des langues des signes dans chaque pays. Et il y a aussi des variantes régionales dans chaque pays. chaque pays. Par exemple, en France, on a des variantes linguistiques par région, aussi par tranche d'âge, par génération, ou même par école, entre guillemets, parce que les sourds ont grandi dans des instituts. Donc, des variantes de langue des signes se développent dans chaque institut, en fait. Donc, ce sont des langues très riches. Mais comme la langue française ou les langues vocales, en fait, on ne parle pas le même français à Marseille qu'à Lille. Et ben, en langue des signes, c'est exactement la même chose, parce que ce sont des langues naturelles qui ont toujours existé et qui ont toujours été parlées par les sourds. Et du coup, qui sont vivantes, qui évoluent, qui se nourrissent constamment. Voilà.
Pendant un discours, quelle est la manière la plus facile de retranscrire ce discours ? Est-ce que quand vous traduisez, vous faites du mot pour mot, ou est-ce que c'est plutôt par des expressions, ou comme par exemple « j'ai envie de manger », est-ce que vous dites juste « manger » ou « j'ai envie de manger » par exemple, Véronique ?
Alors déjà, pour une chose importante qui fait partie de notre métier, c'est la préparation. On prépare énormément nos prestations, surtout sur ce type de festival. Et par exemple, moi, depuis l'ouverture du festival, je visionne le maximum de films de Régis Roinsart et puis d'André Arnold pour pouvoir être prête vendredi et samedi. Et le travail de préparation est vraiment important, justement, pour pouvoir anticiper tout le travail d'interprétation.
Et en fait, pour répondre à votre question plus précisément, on traduit pas du mot à mot, pas du tout. Au contraire, c'est la première chose qu'on nous explique en formation, c'est que l'interprétation, la traduction, c'est on traduit du sens d'une langue A vers une langue B. Donc, c'est-à-dire que là, on va parler du français et de la langue des signes. Si on traduit du français vers la langue des signes, on va extraire le sens du discours en français et le retransformer mentalement en langue des signes et le restituer en langue des signes. Et c'est chaque unité de sens, en fait, qui passe. Donc, une unité de sens, ça peut être un mot, ça peut être un ensemble de mots. Enfin, on n'est pas collé aux mots, justement. Il faut vraiment qu'on décolle des mots. Et pour votre exemple, c'était « j'ai envie de manger ». On va traduire « j'ai envie de manger ». Parce que là, le sens, c'est avoir envie de quoi ? De manger. Et juste manger tout court, ce serait incomplet. Mais on changera la structure on s'exprimera en langue des signes, donc on suivra la grammaire de la langue des signes qui est différente de celle du français. Donc en français, on dit « j'ai envie de manger », en langue des signes, on va dire, pour transcoder, on va dire « manger, moi, envie », avec un signe pour chaque mot. Et évidemment, une grande importance des expressions du visage, ce qu'on appelle les mimiques faciales, qui font entièrement partie de la langue et en termes de sens, en termes de grammaire, d'intention, d'intonation. Le visage passe énormément de sens aussi dans nos traductions. C'est pour ça que vous nous voyez souvent gesticuler du visage. C'est normal, ça fait partie de la langue.
Et justement, par rapport à votre exemple, avec l'expression du visage, on pourra dire « j'ai envie de manger parce que j'ai très faim » ou « parce que je suis affamée » ou « parce que j'ai juste un petit peu faim ». Ou parce que je ne sais pas trop quoi faire, vous voyez, l'expression du visage pourra vraiment en rajouter deux sens.
Vous parlez de la préparation du visionnage de leur film, mais concrètement, qu'est-ce que ça vous apporte pour votre future intervention, en fait ? Est-ce que ça vous apporte des mots, du lexique à préparer pour pouvoir mieux le transcrire ou des choses comme ça ?
La préparation, elle nous sert, comme disait Véronique, à anticiper un maximum ce qu'on va être amené à traduire, c'est-à-dire anticiper ce que les gens vont être amenés à dire. Alors, on ne peut pas tout anticiper. On sait très bien que quand on traduit en simultané, en direct, il y a toujours une part de surprise et d'adaptation de notre part. Mais plus on anticipe, moins on a besoin de s'adapter et et moins on est dans la surprise. Et parce qu'il faut penser aussi qu'on a souvent des contraintes, parfois quelqu'un qui parle très vite ou un environnement sonore qui est un petit peu pollué au niveau du son, donc qui va nous gêner pour l'écoute, etc. Et donc c'est vrai que là, dans le cadre des prestations qu'on va avoir pour le festival, on va traduire deux rencontres avec les deux réalisateurs et réalisatrices. Donc du coup, plus on a vu leur film, plus on va comprendre de quoi ils vont parler quand ils vont parler de leur film, quand ils vont, je sais pas, par exemple, parler de telle scène dans tel film. Si on a vu le film, on va tout de suite comprendre de quoi il s'agit. On va tout de suite voir la scène, voir les personnages. On va pouvoir traduire plus finement, en fait, que si on n'a pas vu le film. On va aussi préparer toute la filmographie, les titres de films, l'année dans laquelle le film est sorti, le nom des comédiens, etc., etc. En fait, on essaye de préparer un maximum pour avoir le moins de surprises possible et pouvoir traduire le plus fluidement possible.
Oui, c'est vraiment ça, c'est vraiment appréhender au maximum toute la scénographie, c'est filmographie. Et oui, surtout les noms des comédiens, du réalisateur, et puis aussi essayer d'avoir un petit peu le quand ce sont des réalisateurs qui travaillent déjà depuis longtemps, d'avoir un petit peu leur façon à eux de filmer, et puis de pouvoir peut-être aussi un peu anticiper les questions qui leur seront posées par rapport à au contenu des films.
Et donc, comment on se prépare à des termes compliqués que pourraient dire des réalisateurs? Mettons, si un réalisateur nous parle de continuité dialoguée, donc le synonyme un peu d'un scénario, est-ce que vous traduirez par scénario ou par un autre terme qui s'en rapprocherait?
Alors, comme je disais tout à l'heure, on traduit du sens. Donc là, en l'occurrence, continuité dialoguée. Tout à l'heure, je vous ai demandé à quoi vous faisiez référence exactement pour pouvoir vous répondre, parce que... moi, personnellement, continuité dialoguée, je ne savais pas exactement à quoi ça faisait référence. Maintenant, vous me dites que c'est un scénario. J'ai un signe en stock dans ma langue des, enfin, dans la langue des signes. Il existe un signe pour dire scénario. Mais s'il avait dit continuité dialoguée, il aurait fallu que dans ma tête, en un quart de seconde, je puisse me dire, bon, qu'est-ce qu'il a voulu dire par là? Ça doit être scénario, et faire scénario. Ou alors, vraiment utiliser l'expression qu'il a utilisée en retranscription, cette idée de continuité dialoguée, j'aurais mis dialogue qui s'enchaîne ou quelque chose comme ça en fait. En fait, parfois on n'a pas un signe. En français, il existe un mot pour nommer un concept ou quelque chose. En langue des signes, il n'y a pas forcément le signe pour nommer ce concept-là. Mais c'est pas grave, tant qu'on a le sens, tant qu'on sait ce que ça veut dire, on peut faire une périphrase, on peut se débrouiller pour passer le sens autrement qu'avec un signe.
Sinon, ce qu'on fait beaucoup, c'est des recherches au préalable sur Internet. Et là, tout le vocabulaire qu'on peut trouver sur Internet, c'est juste parfait, quoi. Voilà.
Et je voudrais juste rajouter que c'est pour ça qu'on embête souvent nos usagers, nos clients, quand on leur demande en amont de nous envoyer les éléments de préparation. Souvent, on sent que c'est pas une habitude. Enfin, ça dépend. Les prestataires les personnes pour qui on traduit régulièrement ont pris l'habitude, mais il faut toujours qu'on explique aussi notre besoin de préparation, parce que il y a vraiment une différence pour nous quand on arrive sur une prestation, en ayant eu les éléments de prépa, qu'en arrivant sans les avoir eus, et du coup on se prépare comme on peut avec pas assez d'informations. Alors que quand on a, par exemple, pour une conférence, on a reçu bien tous les PowerPoints à l'avance, on a pu les étudier. S'il y a des termes un peu techniques, on va chercher des définitions, on va chercher des images, parce qu'en langue des signes, on retransmet en images le sens. Donc voilà, le travail de préparation, c'est anticiper, chercher du sens, chercher des images.
Qu'est-ce que vous qualifieriez comme la chose la plus compliquée à faire dans votre métier et celle que vous qualifieriez du coup plus facile, la plus facile à faire dans votre traduction, dans votre métier?
Alors, la plus difficile, pour moi, c'est tout ce qui est lié aux émotions. Donc, je dirais, par exemple, traduire un enterrement. Voilà, tout ce qui est cérémonie religieuse d'inhumation, ça c'est assez compliqué. Et puis après, tout ce qui touche tout ce qui est médical et qui touche toujours dans le domaine des émotions, hein, tout ce qui est annonce de diagnostic grave, voilà, tous ces suivis-là sont assez compliqués, ouais.
Pour ma part, un peu comme Véronique, c'est vrai que les situations qui nous provoque à nous en tant que personne, pas en tant qu'interprète, des émotions, qui nous font monter des émotions. Quand on est en pleine interprétation en simultané, il faut qu'on les gère, ces émotions, et parfois c'est compliqué. Il faut rester professionnel, on ne peut pas se permettre d'interrompre une interprétation qui est en cours parce que nous on ressent des choses, ou parfois de traduire des propos avec lesquels on n'est pas du tout d'accord. Plus en, par exemple, un discours politique avec lequel on n'adhère pas du tout. Mais on doit passer le sens, on doit passer l'intention, on doit passer l'intensité du discours, etc. Ou ça peut être aussi des difficultés clairement techniques sur le plan linguistique. C'est parfois, on va traduire des personnes qui sont spécialistes dans des domaines très, très, très poussés. Je ne sais pas, je pense à mes collègues, certains collègues qui traduisent des soutenances de thèse ou des choses très très techniques. Ça demande beaucoup de préparation et aussi une culture générale assez large, quoi, pour qu'on puisse même parfois être capable de traduire des choses qu'on n'a pas pu préparer parce que ça tombe comme ça, et se raccrocher aux branches de nos connaissances en fait pour pallier ce qu'on n'aurait pas pu préparer, quoi.
Dans le cadre là du festival, en tant qu'interprète, quelle place pensez-vous qu'a la langue des signes dans le cinéma ? Est-ce que pour vous, elle est assez représentée, pas assez ? Est-ce qu'il devrait y avoir des améliorations sur sa représentation, en fait ?
Alors, la première chose qui me vient à l'esprit par rapport à votre question, c'est vraiment la place de la des comédiens sourds dans le cinéma. Parce que quand ils prévoient des personnes sourdes directement, des comédiens sourds, c'est juste parfait. Après, quand on fait appel à des personnes qui sont entendantes et qui apprennent la langue des signes pour pouvoir, voilà, parce que ce sont des personnes célèbres et pour pouvoir jouer quand même, là, ça pose question, quoi.
Oui, ça pose question. On pense au film La famille Bélier, que tout le monde connaît, qui est un film qui a eu beaucoup de succès. Voilà. En France, en général, c'était un film grand public, une comédie. C'est un film qui a beaucoup plu, en fait, aux entendants et qui a moins plu aux personnes sourdes, malgré le fait que c'était un film quand même de qualité, bien réalisé, avec des comédiens, des très bons comédiens, etc. Ce qui a déplu, c'est que, effectivement, les rôles des deux parents sourds étaient joués par des comédiens entendants, tête d'affiche. Et que du coup, ben, quand on connaît le monde des sourds et qu'on connaît la langue des signes, c'est comme si on voyait, je sais pas moi, un comédien français célèbre jouer dans un film chinois en parlant chinois alors qu'on voit bien que c'est pas sa langue. Quand on comprend le chinois, on va se dire, ben non, ça sonne faux. Et ben nous et les sourds, on a eu la même sensation de dire, c'est dommage parce que c'est un bon film. Mais ça sonne faux parce que la langue est pas maîtrisée. Après, ça reste un bon film. Et puis, bon, on a préparé des petites références de films à vous donner si vous le souhaitez. Dans la place des sourds dans le cinéma, vous disiez est-ce que c'est assez, est-ce que c'est pas assez ? Non, c'est pas assez. C'est pas assez. Mais il y a quand même quelques titres, comme un film qui s'appelle Les Enfants du Silence, un film américain qui est sorti en 87 par une réalisatrice. Rhonda Haynes, avec Marley Matlin, qui est une comédienne sourde américaine qui est maintenant célèbre, qui a eu 5 Oscars. Et ce film-là a été adapté, qui est basé sur une pièce de théâtre, pardon, de Marc... j'arrive pas à me relire. Marc Medoff, pardon. Et qui a été ensuite adapté en français, la même pièce de théâtre. Donc, Les Enfants du Silence, par Jacques Collard, et Jean Dalric. Et cette pièce de théâtre, en 93, a été primée d'un Molière, de la révélation féminine, pour Emmanuelle Laborit, qui est une comédienne sourde française très connue dans le monde des sourds. Et c'est ce film-là qui l'a révélé au grand public. Après, il y a La famille Bélier, 2014, d'Éric Lartigot, dont je vous ai parlé. Il y a eu un film la même année qui est sorti, qui a fait moins de bruit, qui était un très bon film, qui s'appelle Marie Heurtin, de Jean-Pierre Améris, en 2014 aussi, avec Ariane Arrivoire, la jeune comédienne sourde. Et donc c'est un film qui est basé sur une histoire vraie et qui retrace l'histoire d'une jeune fille, oui, qui a 14 ans, qui est sourde et aveugle. Et c'est dans les années 1885. Et donc elle va dans un institut pour apprendre à être scolarisée, apprendre à se débrouiller. Et c'est une sœur, Marie Heurtin, qui la prend en charge et qui lui apprend la langue des signes tactile, etc. Et c'est un film qui est magnifique. Ça fait penser au livre et au film Hélène Keller en Amérique latine, n'importe quoi, aux États-Unis. Et du coup, c'est un très très beau film que je recommande. Et donc il y a Ariane Arrivoire, qui est la jeune comédienne et sourde. Il y a aussi Noémie Shirley, qui est une autre comédienne sourde, qui joue dans le film, qui joue le rôle d'une autre sœur. Il y a Isabelle Carré qui joue le rôle de Marie Heurtin, qui elle a pris des cours de langue des signes pour ce rôle-là, mais elle avait un rôle d'entendante, elle n'avait pas un rôle de sourde. Et il y a aussi une collègue interprète qui joue dans le film, un rôle de bonne sœur aussi, et qui est super. Il y a toute une équipe d'interprètes qui a travaillé sur le tournage aussi pour permettre la communication. Puis après, il y a d'autres films comme The Tribe, il y a une série qui s'appelle Switch at Birth, une série américaine. Et il y a un film français aussi qui s'appelle « J'avancerai vers toi avec les yeux d'un sourd » de Laetitia Carton, qui est magnifique et que je recommande aussi. Et pour la famille Bélier, il y a Coda en 2021 qui est sorti, qui est un remake à l'américaine de la famille Bélier. Et pour le coup, le rôle des parents a été joué par des comédiens sourds. dont la mère, Marley Matlin, dont je parlais tout à l'heure. Marley Matlin, qu'on retrouve aussi dans la série The L Word, qui a une place importante aussi dans cette série. Voilà pour le petit moment référence cinémato-théâtro-série.
Merci à vous deux pour vos réponses très intéressantes à nos questions. Et donc, on vous retrouve là en fin de semaine sur l'interprétation, la traduction des rencontres avec André Arnold et Régis Roinsart. Donc, je vous souhaite une bonne fin de festival.
Merci beaucoup.
Et bonne journée. Au revoir.